Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Binge.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, s'il a les yeux traditionnellement rivés vers l'actualité et les sorties du moment, n'oublie pas d'où cette foisonnante vivacité du 7e art lui vient, où elle puise ses sources, bref, a toujours en bon cinéphile gardé dans sa vidéothèque une place très large à ce qu'on appelle un peu rapidement le patrimoine. Aussi, c'est avec une joie quasi enfantine que nous accueillons régulièrement les ressorties, rééditions et autres copies restaurées qui nous permettent de vivre sur grand écran les émotions produites par les grandes heures du cinéma d'antan, celui que bien souvent nous n'avons pu apprécier que sur une télé ou un ordinateur. Avouez que c'est quand même pas pareil. Impossible dès lors de passer à côté de l'événement du printemps en la matière, à savoir le retour en salles obscures de 2001, l'Odyssée de l'espace, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, auquel l'épisode du jour sera consacré. Et pour en causer, quatre voyageurs interstellaires ont posé leur navette ici à l'antenne Paris. Anaïs Bordage, salut Anaïs.
Salut.
Rafik Djoumi, salut Rafik.
Bonjour Thomas.
Julien Dupuis, salut Julien.
Salut.
Et David Honora, salut David.
Salut.
C'est Nos Ciné, épisode 142, et c'est parti.
Buenas noches.
Bah, tu parles espagnol?
Un poquito.
Bah, tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire, allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Il y a du changement dans l'habillage, on m'a pas prévu. Va-t-on vous faire l'insulte de vous résumer 2001? Et surtout, va-t-on s'y risquer, ne serait-ce que parce que l'intrigue est un poil complexe? Ramenez sur 5 secondes, essayons quand même, ne serait-ce que pour vous dire, si vous ne l'avez jamais vu, que 2001, suite à différentes époques, les interactions de l'homme avec une puissante intelligence extraterrestre apparue aux temps anciens sous forme d'un monolithe noir derrière lequel se cachent les secrets et les mystères de la vie, rien que ça.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Et c'est donc signé Stanley Kubrick qui, à l'origine, le film est sorti en 1968, il y a 50 ans tout juste donc, et après un demi-siècle d'influence plus que décisive sur la manière de filmer la SF ou de filmer tout court, le film ressort aujourd'hui dans une version restaurée à l'identique en 70mm, supervisée par Christopher Nolan, qui lui-même avait montré l'étendue du traumatisme, on peut le dire, que représente 2001 pour lui, avec Interstellar, c'était en 2014. Nos camarades ici présents ont eu la chance de voir cette nouvelle copie, qu'en avez-vous pensé, les amis?
Alors moi je n'ai pas vu cette.
Ah bah qu'est-ce
copie.
Que vous foutez là, Rafik Djoumi? Qu'est-ce que vous faites là, Julien?
Mais par on va peut-être y aller.
Par contre, j'ai eu la chance de découvrir 2001 à un très jeune âge en 70 mm avec une copie d'époque, c'est-à-dire une
car
copie.
Tu es né en 1951.
Car je suis né, oui, je suis. C'était quoi en même temps que Joan Crawford, je crois,
c'est
dans
ça,
ces eaux-là, qui était une copie donc de 68 qui continuait à circuler à Paris en très bon état, et donc j'ai découvert le film comme ça. Et ça fait partie de mes traumatismes d'enfance. Oui, donc clairement, enfin, ça fait partie des éléments qui m'ont vraiment ouvert à la cinéphilie. Et j'insiste, à un très jeune âge. Hein. C'est-à-dire à un âge où tu comprends à peine un épisode de Scooby-Doo, mais
2001,
le film a eu un impact absolument déterminant. Et je pense que c'est effectivement une bonne chose. J'ai toujours compris les gens de mon entourage qui me disaient s'être fait chier à ce film, dans la mesure où la plupart d'entre eux l'avait découvert à la télévision, oui. Plus tard en VHS, et même ceux qui l'ont découvert en DVD, il n'y a rien qui puisse vraiment nous mettre dans l'état quasi hypnotique auquel Kubrick songeait lorsqu'il a conçu ce film, et que seule une définition maximale peut amener. C'est-à-dire qu'il y a un effet comment dire, le regard humain en fait par exemple sur du 35 mm va mettre un certain temps à balayer une image et à en saisir les informations, et si le plan dure plus longtemps que ce que le regard a mis comme temps, c'est là où le plan commence à nous apparaître comme long. 2001 est réputé être un film contemplatif, dont les plans sont parfois extrêmement longs. Oui. Et donc, c'est bien de préciser que ces plans sont réduits, en fait, dans une vision en vrai 70 mm, parce qu'il nous faut justement le temps pour que notre regard balaye cette image et en analyse ces informations. On n'a plus du tout l'impression de plans exagérément longs. On a l'impression de plans seulement contemplatifs, en fait. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, ceux qui se sont fait chier devant 2001 et qui souvent dans le milieu de la cinéphilie en éprouvent une certaine honte injustifiée au fond, je leur conseillerais vivement de retenter l'expérience dans ces conditions-là pour voir qu'ils seront naturellement plus réceptifs.
David.
Je rejoins tout à fait Rafik. Alors pour le coup, moi j'ai eu l'occasion de le voir, j'en ai parlé pendant le podcast à Cannes rapidement. Donc c'est là que le film était présenté par Christopher Nolan dans cette
version
dans cette nouvelle copie qui est c'est plus que restauré, en fait c'est juste un nouveau tirage à partir du négatif original. Donc la tentative de restauration, c'est de restaurer l'expérience originale à la sortie du film.
Non restauré d'ailleurs.
Non restauré, l'idée c'est de revivre ce que ça avait pu être à l'époque, donc il y a 50 ans. Et en fait, en disant ça, moi c'est ce qui me frappe le plus, c'est-à-dire que c'est un film qui a 50 ans et j'ai toujours un peu l'impression qu'il nous vient du futur, quoi. C'est extraordinaire, en fait, de se dire que ce film est une vieille chose, quoi, plus vieille que moi. Enfin, ça me dépasse complètement. Et du coup. Le redécouvrir comme ça, au-delà de la définition, j'ajouterais même que le fait de le voir en salle, surtout pour nous maintenant, quand on regarde un film chez soi, on est très facilement distrait par un téléphone qui traîne ou je ne sais quoi. C'est aussi prendre le temps de s'immerger totalement dans ce film qui a une ambition complètement folle. C'est-à-dire que tu essaies de résumer le film et c'est pas évident, mais mine de rien, ça raconte l'histoire intégrale de l'humanité et son futur. Et c'est à la fois extrêmement prenant, c'est-à-dire qu'il y a des idées d'ellipse. Il y a le fameux raccord sur l'os volant qui fait un raccord avec la navette spatiale, le satellite. Et en même temps...
Un lanceur de bombes, normalement.
Un lanceur, oui, voilà.
C'est un lanceur de missiles qui tourne autour de la Terre.
Du coup, l'évolution des armes en un simple raccord. Et puis, au-delà de ça, il y a des scènes à l'inverse, entre guillemets, miniatures, vraiment d'intimité, notamment entre les deux... les deux protagonistes à bord de la station spatiale, et aussi d'intimité entre celui qui survit à la fin et Hal, et les disputes, l'affrontement qui est entre les deux. Et enfin, il y a quelque chose qui est vraiment sidérant quand on voit le film en salle, c'est toute la séquence finale qui c'est du cinéma expérimental avec des effets sur le son, sur la lumière, surtout
qui ne semble pas trop long, comme le disait Rafik. C'est ça, quand tu le vois en 70 mm.
À la fin, c'est
moi, je trouve que c'est particulièrement sensible à la fin, bizarrement. C'est-à-dire que c'est une séquence à la télé.
Il y a aussi quelque chose dans le rythme du film qui fait que on a été mis dans je dirais pas un état de léthargie, mais on n'a pas été préparé à ça, en fait. Enfin, on n'a pas été préparé à cette sorte d'explosion finale qui nous retourne le cerveau, et c'est vraiment une expérience unique de pouvoir voir ça, quoi.
Anaïs,
Pas de souci.
Anaïs.
Oui, moi aussi, j'ai eu la chance de le voir à Cannes, et je fais partie de ces gens-là qui l'ont vu à la télé pour la première fois, et je devais avoir 10 ans, et je me suis vraiment dit, mais c'est quoi ces singes, j'en peux plus, quoi. Et c'est vrai que c'est assez désagréable, limite à regarder à la télé, quoi. Et c'était la première fois que je le voyais sur grand écran, dans une salle de cinéma, et effectivement, c'est incroyable. En fait, de se dire que même 50 ans plus tard, c'est un film qui paraît plus ambitieux et plus révolutionnaire et moderne que beaucoup de films qui sont sortis cette année. Et alors, ce qui était particulièrement cool avec la présentation de Christopher Nolan, qui milite vraiment pour le 70 mm, on l'a vu avec Dunkerque et ses films d'avant, et qui fait vraiment partie de ces cinéastes qui veulent pousser un peu les gens à s'interroger sur la pellicule versus le numérique, et montrer qu'il y a plusieurs formats possibles, en fait, qu'on n'est pas obligé de faire que du numérique. Et là, en fait, donc avec cette version non restaurée, comme il l'appelle, la copie est imparfaite. Il y a des rayures, il y a des taches, il y a des petits sauts d'image à certains moments, donc c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. On n'a pas l'habitude de voir,
On n'a plus l'habitude. Ouais.
Exactement, mais ça rentre complètement dans l'objectif de Nolan, qui était de montrer ce que ça faisait de voir ce film il y a 50 ans. Et donc, non seulement on a cette copie qui est imparfaite, mais on a aussi l'entracte qui dure vraiment 20 minutes. On n'a pas juste le petit panneau intermission, quoi. On a vraiment pu tous aller aux toilettes pendant ces 20 minutes. Et on nous a aussi distribué une réédition des dossiers de presse qui avait été distribué à l'époque. Donc en fait, il y avait vraiment une remise en condition un peu historique, et ça, c'est une expérience qu'on peut pas vivre tous les jours. Donc c'était assez extraordinaire. Et en fait, je l'ai revu à Paris là, puisqu'il est projeté à l'Arlequin dans cette même version. Oui. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait vraiment un peu de tout dans la salle. Il y a un mec à côté de moi qui a dormi. Il y a un autre mec à côté de moi qui, lui, était un peu outré à la fin parce qu'il trouvait que la copie était dégueulasse et que vraiment il n'avait pas apprécié. Et il y a aussi quelqu'un dans la salle qui, au moment où Hal commence à révéler ses vraies couleurs, on va dire, qui a commencé à faire pendant de longues minutes, et c'était assez incroyable, assez jouissif d'entendre quelqu'un
réagir.
Voilà, comme une gosse, quoi.
Il y en a un sur trois qui aime, en fait.
sondage sorti des urnes. 30% de satisfaction.
Il y avait un ado avec ses parents. Enfin, il y avait vraiment tout, de tous les âges et de tout niveau, on va dire, de cinéphilie. Et donc ça, je pense que c'est l'objectif avec cette nouvelle sortie, c'était vraiment de transmettre l'amour de ce film et de ce type de cinéma-là à un nouveau public de fans. Et ça, je pense que c'est complètement réussi. Et donc après, effectivement, là, il va ressortir en 4K, donc je pense que ce sera visuellement plus propre et plus parfait. Mais même avec cette copie-là, vraiment, juste de se remettre dans cette expérience d'il y a 50 ans, c'était vraiment super fort, quoi.
Julien, ça y est, c'est bon, tu peux y aller.
Non, moi, j'ai pas vu cette copie-là. Moi, j'avais vu copie à la Cinémathèque il y a 2 ans, quand... ils avaient fait tout un truc sur les techniques du cinéma. Oui. Il y avait Douglas Trumbull qui était venu.
Exact.
Douglas Trumbull, c'est un Américain qui était très jeune, qui était un illustrateur à la base, mais qui avait commencé à toucher un peu aux effets spéciaux, qui a été débauché par Kubrick et qui est parti vivre en Angleterre comme la plupart des gens, en fait, que Kubrick avait débauché pour monter le film, parce que ça aussi, c'est toute une aventure, enfin, la fabrication de 2001. Et qui s'est retrouvé un peu comme un des maillons forts des effets spéciaux. Alors, c'est pas le seul qui a fait des effets spéciaux. Ça, il faut quand même le rappeler, c'est très important. Mais à un très jeune âge, en fait, il s'est retrouvé à travailler à la fois sur les maquettes, à la fois sur ce qu'on appelle la motion control, c'est-à-dire une caméra pilotée par ordinateur. C'est ce qui va permettre des années plus tard de faire les effets spéciaux de la guerre des étoiles. Eux, ils avaient appelé ça la Sausage Factory, parce qu'ils espéraient qu'avec cette machine-là, ils allaient pouvoir, en fait, enquiller les plans truqués à un truc de malade. Et en fait, non, ça marchait très lentement. Et c'était très, très, très long d'obtenir des plan truqué,
la saucisse faite,
en tout cas validé par Kubrick avec la Sausage Factory. Et alors, deux choses. Déjà, moi, la copie était... Donc, c'est pas les conditions avec Nolan, etc. Ouais. Mais la copie était validée quand même par Douglas Trumbull. C'est-à-dire que lui disait, moi, c'est une des plus belles copies que j'ai vues au monde. Donc, je pense que je l'ai vue quand même dans des belles conditions. Et moi, 2001, c'est peut-être le film que j'ai vu le plus de ma vie, le plus de fois de ma vie. Je l'ai découvert, moi, à la télé, à un très, très jeune âge aussi. C'est un film que j'ai fantasmé avant parce que j'avais vu déjà les photos. Ouais. Je l'ai découvert très jeune. Je vais avoir 9 ans, un truc comme ça. Et à la télé, en version dégueulasse, je me demande même si le film n'avait pas été ou alors remonté. Enfin, c'était horrible. Alors, il y avait une coupe dedans. Mais c'était un film qui, pour moi, était complètement déjà fascinant. Hein, ouais. Et que j'ai découvert de plus en plus. C'est-à-dire qu'après, j'ai vu en 35 mm. Après, je l'ai vu en Blu-ray. Après, donc, je l'ai revu en 70 mm. Et à chaque fois, moi je trouve que dans tous les grands films, en fait, peu importe le format dans lequel tu le vois, tous les grands films, ils fonctionnent sur n'importe quel format. C'est-à-dire que moi, Laurence d'Arabie, je l'ai découvert en noir et blanc, ça fonctionnait déjà. Mais le truc, c'est que quand ces films, ils ont été quand même pensés pour ces formats-là, ça booste en fait toutes les émotions qu'ils te procurent. Mmh. Et évidemment, toutes les émotions, elles sont boostées par 2001. Moi, ce qui m'a énormément frappé, ce que dit Raph, c'est tout à fait vrai, hein, sur les détails et comment ton œil recherche ça. Et je trouve surtout dans la séquence de trip à la fin. Mais il y a un truc en salle, c'est le silence. C'est-à-dire que la salle, l'expérience de vivre une expérience collective en salle, ça c'est déjà un truc super fort, moi que j'adore. Et c'est pour ça que je suis très triste quand les films sortent uniquement sur Netflix, etc. Parce que j'adore voir un film en salle et que les gens tripent en même temps que moi je trippe. Et quand il y a le silence, quand le film t'impose...
C'est toi qui faisais...
non mais quand, justement, je ne le fais pas, parce que quand le film t'impose le silence comme ça, et que toute la salle, et moi la salle elle était comble, toute la salle respecte à ce point-là, ou en tout cas à ce point-là dans le film, qu'eux-mêmes ils retiennent voilà, exactement leur souffle, en tout cas tu n'entends pas une mouche péter quoi, à ce moment-là. Excusez-moi, monsieur Kubrick, c'est pas très Kubrickien comme expression, mais bon, clair. Peu importe. Mais je trouve que c'est extrêmement puissant et c'est vrai que ce déferlement en plus de d'images et de sons après cette partie extrêmement tendue et extrêmement lancinante, en fait, c'est lancinante. C'est un truc fou, quoi, qui a pas vraiment procuré le. Enfin, que le cinéma, il n'y a pas d'équivalent en fait à 2001. Mmh. Je ne sais pas s'il y en aura un jour. Le truc aussi qui, je pense, joue dans le pouvoir de fascination en fait du film, et là aussi, je pense que c'est un film totalement de pur cinéma. C'est-à-dire que ça va au-delà du fait que le film se passe quasiment entièrement de dialogue ou qu'il donne vie à un objet totalement inanimé qui est Hal, en lui donnant un caractère très présent, etc., juste par le pouvoir de la mise en scène. Je pense que c'est au-delà de ça, c'est sur ce que le film te raconte. C'est-à-dire que le film te raconte qu'est-ce que pourrait te procurer d'aller plus vite que la lumière et de passer, du coup, de voyager très très loin. Et le pouvoir du cinéma en tant qu'art, c'est justement de te faire voyager dans le temps. Et le truc, la trouvaille géniale en fait de Trumbull, moi j'ai cette théorie qui est que je pense que tous les grands films technologiques qui sont tous des grands films, il y a une concordance en fait entre ce que le film te raconte et puis comment il a été fabriqué.
Oui.
Et ce truc du tunnel en fait dans 2001, c'est un trucage mis en place par Douglas Trumbull qui, pour la faire courte, c'est assez compliqué, Slitz Klan a expliqué, mais en gros profite d'une.
Il y a un épisode de Beats qui explique très bien comment ce trucage a été obtenu.
Il y a un site américain aussi qui l'explique en vidéo.
Non, mais pas aussi bien que Beats.
Peut-être pas.
Certainement pas.
Mais en fait, ce qui est intéressant du Slitz Klan, c'est que c'est un truc sur la très très longue exposition. En fait, ça joue, on va dire là-dessus, et ça, disons, ça te construit un espace. Juste avec un voyage dans le temps, en fait. Sauf que toi, tu le perçois plus de la même façon. Et je pense qu'il y a un truc dans 2001 là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un truc de... ça va au-delà du trip. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a juste des couleurs, etc., qui défilent. C'est que tout à coup, ta perception du temps, la façon que tu as d'appréhender ton environnement n'est plus la même. Parce que le cinéma... t'as donné l'occasion en fait de vivre ça d'un coup. Et je pense qu'il y a quelque chose là. Encore une fois, il y a un alignement des étoiles là pour le coup, de circonstances, qui fait que 2001, c'est ce que c'est aussi. Voilà.
La modernité dont parlait David, elle n'est pas seulement due à ce piqué d'image, mais aussi aux techniques de prise de vue qui ont été assurées par Geoffrey Hemsworth, Jeff Hop, quand même du film, mec, pas rien quoi.
Oui, il a un peu travaillé dessus,
assisté par John Alcott. Donc quand ton assistant est déjà le meilleur chef-op de sa génération, si tu veux, c'est pour on est à un certain niveau. Mais il y avait aussi, par rapport à l'époque où le film est sorti, un nombre d'innovations inouïes en termes de prise de vue. Ça a l'air de rien aujourd'hui, hein, mais le fait de suivre caméra à l'épaule les scientifiques lorsqu'ils descendent vers le monolithe, lorsqu'il est sur la Lune, par exemple, en entendant uniquement leur respiration, ce sont des choses qu'on fait naturellement dans les films aujourd'hui, mais qui restaient très modernes, et aussi les sources d'éclairage.
Il a fallu mettre au point une caméra spéciale.
Tout à fait. Ouais. Le fait que les sources lumineuses soient très très difficiles à identifier aussi, que l'éclairage semble naturel pratiquement dans quel que soit le lieu où l'on se trouve. Si vous comparez avec un autre grand film en 70 mm comme Laurence d'Arabie, qui lui est un film de, comment dire, pictural, c'est-à-dire vraiment où on fait des tableaux Oui. Ben, bon, c'est facile de voir comment le tableau a été obtenu. Voilà. Clair, sur 2001, tu sais pas où sont les sources lumineuses. Et ça, c'était vraiment un boulot que John Alcott a mis en place. Rappeler que le film devait être exploité en technirama, enfin en cinérama, qui était ce procédé de trois écrans qui enveloppaient complètement les spectateurs. C'était trois fois 35 mm, donc on était dans les 105
c'est pas mal,
mm. Je sais pas d'ailleurs comment ils ont fait sur la copie 70 mm pour corriger la courbature, enfin la curvure, je sais pas quel terme français on emploie pour parler de ça.
L'incurvation.
L'incurvation, merci de l'image. Mais ça nous signifie aussi que le désir de Kubrick était, même si Julien dit ça n'est pas qu'un trip, le désir de Kubrick était quand même de stimuler les sensations, les sens tout simplement au maximum, avec la stéréocipiste, donc avec une image intégralement de plongée publique à l'intérieur de l'expérience, etc.
Un petit peu le truc qui traverse sa filmographie, cette manière de stimuler les sens.
Tout à fait. Et comme on a depuis la sortie du film, c'est un film qui est respecté mais pas forcément aimé. On le craint un peu. Et je pense que le problème aussi, c'est que les gens se sentent intellectuellement diminués face à un film comme ça. Et c'est bien de leur rappeler que le film n'a pas été conçu pour des intellos. Le film, il a été conçu pour des gens qui acceptent de s'abandonner à un film. C'est par la sensation que tu vas rentrer dans 2001. Et à défaut de comprendre au sens intellectuel, tu vas ressentir ce que le film te dit.
Et le fait de pas que Kubrick refuse, en fait, ou il est quasiment refusé, parce qu'il en a apporté quelques explications sur la fin, deux fois en fait, à ma connaissance.
Justement, on y reviendra après.
C'est pas une coquetterie en fait, c'est que, effectivement, je pense que il a l'humilité que n'a pas du tout d'ailleurs Christopher Nolan dans Interstellar, de se dire de toute façon, ça nous dépasse. De toute façon, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas le vivre. Intellectuellement, je ne peux pas percevoir ce que je suis en train de raconter. Donc je vais le faire ressentir. Et c'est là où l'outil, encore une fois, cinéma arrive. Comme, disons, extension, en tout cas remplacement en fait des déficiences cérébrales du cerveau de Stanley Kubrick. C'est quand même pas peu dire. Quoi.
En fait, David, c'est pas qu'une histoire de déficience, c'est aussi tout simplement le fait que la parole ne peut pas rendre une complexité aussi grande. Donc le fait qu'on puisse pas synthétiser ou réduire tout ce qui est dit par le film en l'expliquant, c'est aussi sa grande force, c'est-à-dire que essayer de dire j'ai compris tous les tenants et aboutissants de 2001 et je vais vous les expliquer, c'est déjà partir perdant parce que rien ne sera aussi éloquent que ce que fait le film lui-même. Après je voulais revenir aussi sur ce que disait Julien et sur les conditions de la production du film et c'est vrai qu'il y a un point important dans la carrière et dans la vie de Kubrick, c'est que quelques années avant, il décide d'aller en Angleterre pour réaliser Lolita, pour fuir les risques de censure. Et pour un certain nombre de raisons, et aussi qu'il aime pas trop l'avion, il décide de s'installer définitivement en Angleterre, ce qui le met en partie à distance des studios. Et c'est là qu'il va vraiment installer ce qui, pour moi, a fait toute la fin de sa filmographie, qui est, je trouve ça très rare dans le cinéma, une filmographie absolument impeccable à partir de Lolita, et sur lequel il assoit une toute puissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il tourne dans les studios Pinewoods et qu'il arrive à mettre un peu à distance les studios et l'argent américain, il va complètement décider de son œuvre. Alors, les limites de ça, c'est aussi, pour le coup, les films qu'il n'a pas pu faire, pour un certain nombre de raisons où aussi lui-même n'a pas pu aller au bout de ses volontés, de son œuvre, de ses désirs.
Son Napoléon notamment.
Et notamment Napoléon, aussi
AI.
Intelligence artificielle. Et en fait, c'est intéressant de voir quelque chose qui est un cas finalement pas si répandu dans le cinéma et qui, je trouve, frappe à... de plein fouet avec 2001, c'est l'aboutissement total de l'œuvre d'un génie qui n'a pas eu les freins ou les barrières. Oui. Et quelqu'un comme Orson Welles, par exemple, après Citizen Kane, n'a jamais vraiment eu l'occasion de faire un film dans lequel il a une liberté totale, ou en tout cas dans la capacité d'aller vraiment au bout de ses idées. Et ce qui est génial avec Kubrick, et c'est extrêmement frappant en 2001, c'est qu'il a eu cette occasion. Et ça donne des plans et des moments, enfin, même quand on le redécouvre maintenant, où on peut se dire encore sur un film qui a 50 ans, en fait, comment il a tourné ce plan, quoi, comment ça marche, c'est vraiment hyper, hyper stimulant et hyper enthousiasmant quand on est cinéphile.
Avant de se quitter, mesdames et messieurs, on va, comme d'habitude, faire un petit tour rapide de recommandations. Alors, c'est difficile de passer après 2001, du coup, parce qu'on vient un peu d'en dire, de passer notre temps à recommander 2001 chaudement à voir en salle. Mais on va quand même essayer. C'est Anaïs qui va commencer, qui s'y colle en première. Merde, c'était caché au fond pour pas commencer.
Écoute, j'ai hésité à vous recommander Deep Impact, mais bon, je me suis dit qu'on en parlait déjà un peu trop.
Quelle mauvaise idée.
Je voulais recommander Soleil Vert, qui est un film avec Charlton Heston des années 70, qui est un film de science-fiction, qui n'est pas aussi bien que 2001, mais qui est quand même plutôt sympa. Ça se passe à New York en 2022, et donc New York est complètement ravagé par la surpopulation et la pollution, et tout le monde est obligé de manger donc ce Soleil Vert, ou Soylent Green en anglais, qui est donc une espèce de pâte de fruits verte faite à base de plancton.
C'est comme le feed que les gens des startups mangent maintenant.
Exactement. Voilà. Donc c'est fait à base de plancton, ou en tout cas c'est ce qu'on nous dit.
Voilà.
C'est un film moi qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vu, notamment pour cette scène d'euthanasie avec un acteur qui...
Edward G. Robinson.
Voilà, exactement. Edward G. Robinson, qui était malade au moment du tournage, qui était atteint d'un cancer, qui est mort quelques jours ou deux semaines après la fin du tournage, en fait. Et donc, dans le film, l'euthanasie est institutionnalisée. Donc, il se rend dans un centre d'euthanasie. Et ça donne une scène très belle où, en fait, on lui montre pendant 20 minutes des images très sereines, de nature, voilà, alors qu'on a passé tout le film dans la pollution. Et où on voit Charlton Heston pleurait parce que c'est la figure paternelle un peu du film qui meurt. Et donc il y a la petite histoire où Charlton Heston avait dit qu'il pleurait vraiment pendant cette scène et parce que Edward G. Robinson n'avait pas dit à l'équipe de tournage qu'il était malade. Et donc là il y avait vraiment, c'est une scène assez incroyable parce que c'est le dernier film que cet acteur a tourné. Il y avait vraiment une espèce de profondeur parce que il était clairement malade, oui. Et donc il y avait un petit truc que Charlton Heston a ressenti aussi à ce moment-là, quoi.
Parfait, David.
Pour l'anecdote, première apparition d'un jeu vidéo dans un film de cinéma.
C'est vrai ?
Ouais, exactement. Il y a une nana qui joue à une console.
Et c'est la première fois aussi qu'on voit ça au cinéma. Génial, je ne savais pas. David.
Comme tu disais, faire des recommandations c'est après compliqué. 2001, c'est toujours un peu compliqué. Alors, j'ai deux pseudo-recommandations, parce que c'est juste des trucs qui m'y font penser.
Futurama, c'est pas mal.
À part le cinquième élément.
Cinquième élément.
Non, je déteste la publicité, mais Apple est une marque qui a donné lieu à quelques publicités intéressantes d'un point de vue cinématographique, et il y en a une, je crois que c'était au début à la fin des années 90, au début des années 2000, parce que le sujet de cette publicité était le bug de l'an 2000, et en gros c'était pour dire que les Macintosh n'allaient pas être touchés par le bug de l'an 2000, qui bon, rétrospectivement c'est complètement con et désuet parce qu'on sait,
que ça, n'a pas eu lieu. Été le cas.
Et en fait la publicité met en scène HAL, donc c'est un long travelling avant vers HAL qui raconte, il y a un dialogue entre Dave et HAL et le truc est assez marrant. Je vous invite à aller voir cette pub sur YouTube. Et l'autre truc qui me fait un peu penser, alors c'est encore une pseudo-recommandation et ça n'a rien à voir avec 2001, mais c'est un affrontement... une réflexion sur les machines. On avait très brièvement parlé et Stéphane Moseki s'en avait dit du mal dans l'épisode sur Ready Player One, ça me permet d'en parler un petit peu, c'est War Games de John Badham, et en fait je trouve ce On ne voit pas dans le podcast, mais je vois la tête de Stéphane Moïsakis
qui est dans
la
salle et qui est désespéré.
Voilà, pour moi c'est un film de jeunesse que je trouve plutôt pas mal et qui est un vrai teen movie en fait qui met en scène un geek qui aime les ordinateurs et qui se trouve plus ou moins en capacité de pirater et de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Et un truc qui m'a toujours fasciné dans ce film, c'est que la morale est apportée par le fait que si les deux adversaires jouent parfaitement bien, on ne peut pas gagner au morpion. Et donc à partir de là, pourquoi faire la guerre ? Je trouve ça très beau.
Ah ouais, ah ouais, effectivement, on est parti de loin, c'est bien. C'est bien, ça a drôle d'effet sur vous, de mineur quand même, Rafik.
Oui.
Bonsoir.
Non, moi, je suis complètement d'accord avec
toi. Ah, t'es bien, en fait. Toi, t'es bien.
Je recommande aussi Wargames. Non, par rapport au fait que Kubrick ait donc volontairement choisi de ne pas trop s'étaler sur le sens de son film, etc., ça, j'en compte question rien. Il s'est néanmoins un petit peu épanché sur le caractère hermétique de 2001 lors d'une très longue interview qu'il a donnée pour le magazine Playboy à l'époque. Quand je dis hermétique, c'est au sens de philosophie hermétique laquelle le film fait reposer pas mal de sa symbolique, qui est une tentative de, comment dire, justement d'accéder au sens au-delà de la parole,
tout à fait,
au-delà des mots. Cette interview de Playboy a été reprise par un cinéaste pour en faire un documentaire qui s'appelle de 2001 Sparks in the Dark.
Les étincelles dans la nuit.
Voilà, qui va être diffusé le 19 juin sur la chaîne TCM lors d'une soirée spéciale 2001, et où Kubrick est incarné vocalement par l'acteur Kurt Duller. Avec des animations pour le faire revivre, etc. Donc voilà, c'est
part, quoi.
Exactement. Exactement. Voilà, donc c'est un documentaire de Pedro González Bermudez qui vous permettra justement d'entendre, entre guillemets, Kubrick pour la première fois parler
de ce que 2001 signifie. Très bien.
Donc je redonne éventuellement la date parce que je ne sais pas si TCM le rediffuse régulièrement, mais donc le 19 juin à 20h25 sur TCM Cinéma.
Très bien. Julien.
Alors moi je crois qu'il en parlait dans le petit livre de Stanley Kubrick de Jean-Marc Bouineau là, qui était sorti dans les années 90 en fait, qui était un livre français, et le mec que tu connais peut-être, Rafik, d'ailleurs, non?
Oui.
En fait, le mec avait réussi à avoir une interview de Kubrick, ce qui n'était pas rien, et il revenait en fait un peu sur la fin. Non, mais c'est, si vous voulez enquêter, quoi, voilà.
Oui.
Moi, je vais rester sur 2001 et sur les bouquins. Si vous ne les avez pas lus, je pense qu'il faut quand même lire les livres de Michel Simon.
Oui,
il faut savoir que Kubrick, il choisissait, en gros, grosso modo, comme un bon contrôle fric, il choisissait un journaliste par pays, en fait, en gros.
Et qui parlait. Et la France, c'était Michel Simon.
Et la France, c'était Michel Simon. Du coup, il a eu accès à beaucoup d'entre tient avec Kubrick. Bon, sur les textes en eux-mêmes, on peut avoir des réserves sur ce que Michel Simon tire comme conclusion de ses analyses ou de sa vision du cinéma de Kubrick. Mais bon, il n'empêche que dans les entretiens, c'est riche en enseignements. Il y a beaucoup de choses à en tirer. Et à ça, j'adjoins les livres de ta chaîne. C'est pareil, en tant que grand fan de 2001, il y a eu très longtemps une frustration, en tout cas tant que Kubrick était vivant, sur les coulisses en fait, de 2001, qui ont fait que le film était entouré aussi de beaucoup de mythes.
Notamment sur l'alunissage.
Sur l'alunissage, mais aussi sur les aliens, par exemple, à la fin. C'est-à-dire qu'on entendait dire, bah, il a cherché à représenter les aliens. Ah non, finalement, non, pas du tout. Il pensait qu'il voulait faire comme ça et tout. Et en fait, ta chaîne a eu accès aux archives de Kubrick et on a tiré deux livres, surtout le gros livre archive de Stanley Kubrick, qui est incroyable. Il y a un bouquin spécifiquement dédié en fait, à 2001. Ouais. Et c'est à ma connaissance, il y a aussi un très bon article de fond dans Cinéfex qui a été sorti. Il y a eu aussi un livre de Pierce Bisoni dans les années 90 qui était sorti, une espèce de livre making-of. Mais ça reste quand même les livres de ta chaîne, à ma connaissance, sont les plus complets sur le sujet. Et on voit, incroyable, j'aurais jamais cru voir ça de ma vie, les tests en fait avec ces fameux aliens qui sont. Enfin, heureusement qu'il les a pas montrés, des trucs assez ridicules, assez kitsch, quoi, où t'as des mecs en juste au corps avec des points rouges et qui devaient être filmés avec des lumières réfléchissantes, en fait, sur des fonds à points aussi, et juste en extirpant en fait les points de lumière, bah, ils espéraient créer des êtres, il y a un peu des êtres de comme lumière. Ça. Et il y a encore pire, il y a des espèces
de. T'as rien compris, c'est la performance capture.
Y a, ouais, ça devait être ça. Et il y a aussi des bestioles pas possibles qui, tout à coup, te rappellent que 2001 était fait en, enfin, était tourné et conçu dans les années 60. Quoi. Enfin, tout à coup, tu vois ces concepts-là qui ont été refusés, et c'est hallucinant parce que tu dis, ah oui, mais merde, c'est vrai que c'est pas un film qui a été tourné en 2023, c'est un film.
Mais on dirait pourtant, et en 2023, on dirait que ce sera un film des années 2040, mais on verra, on sera peut-être encore là avec Dino Ciné, on verra bien. Notre temps est écoulé, merci à tous les quatre, merci à Quentin, la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour trouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit ?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, je peux les acheter et pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.